Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. En ce début d'année, on retrouve Alerte Météo Terre qui s'interroge en deux chapitres sur les oiseaux. Que nous disent-ils? Qu'en comprenons-nous? Des scientifiques, des ornithologues de la LPO et des artistes décryptent leurs chants et leurs comportements. Chapitre 1. Cantus.
Alerte.
Alerte météo.
Alerte météo. Terre.
Alerte météo terre.
Bonjour, bonjour les hirondelles.
Alerte. Alerte météo.
Alerte.
Alerte météo terre. Une émission qui se balade.
Alerte.
En mer et sur terre. Météo terre.
L'émission regarde les pieds par terre.
L'émission pour garder les pieds par terre.
Grande histoire et petite question.
Une émission en mer et sur terre.
Petite histoire et grande question.
Alerte.
Alerte météo terre. Alerte météo terre. Alerte météo terre.
Qui a crié ?
C'est moi.
Qui êtes-vous ?
L'oiseau.
L'oiseau ? Un oiseau ! Les deux enfants l'avaient prédit. Ça devait arriver. Oh. Un oiseau, un grand oiseau. Et avec des plumes ?
Multicolore.
Vous savez voler aussi, j'espère.
Oh, voilà une question. Jugez-en plutôt.
J'entends le battement de ses ailes. C'est prodigieux. Il vole.
N'exagérons rien, c'est tout naturel.
Et non seulement il vole, mais il parle.
Toutes les langues, je suis interprète. Polyglotte, monoglotte, je connais le toucan. L'anglais, le latin, le lièvre aussi. Le chinois, le perroquet, bien entendu. Et le lion.
Et le lion ?
Parfaitement, le lion. Je le dis et je le prouve.
Prodigieux. Et qu'est-ce que vous leur avez dit ?
Je leur ai dit bonjour, mes amis. Comment vous portez-vous ?
Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ?
Ils se portent fort mal. Qu'ils s'ennuient beaucoup ici, et qu'ils ont surtout très faim.
Alors on est sur la Coulée Verte, donc c'est un espace de verdure qui traverse le quartier nord de Rennes. Donc c'est un petit espace de verdure, de fraîcheur, on peut trouver la nature en ville en fait. Alors on a d'un côté le quartier de la Bélangerie et de l'autre côté le quartier de Paton, avec plein de petits chemins arborés. Alors on a des espaces un petit peu plus ouverts avec de la prairie. On a en la belle saison des fleurs, des papillons, tout plein d'insectes qu'on peut entendre et observer. Et puis on a également des vieux arbres qui nous restent, qui sont un petit peu des vestiges des anciennes haies. Et au niveau desquels on va observer tout plein d'oiseaux qui sont là pour manger et se reproduire. Alors la coulée verte, elle va permettre le déplacement de nombreux animaux sauvages. C'est vrai qu'en ville, lorsqu'on n'a pas forcément des haies, des fossés, de l'herbe haute qui permettent de se déplacer à couvert, on a plein d'animaux. Alors ça peut aller du hérisson au crapaud, en passant par des petits oiseaux comme les pouillots. Voilà, ils vont être incapables de se déplacer sans risquer de se faire écraser ou de se faire déguster par d'autres animaux s'il n'y a pas ces abris naturels. Donc la coulée verte, ça permet de reproduire ce qu'on va trouver dans des endroits peut-être un petit peu plus naturels en ville.
Tu vas nous emmener nous balader. Tu nous emmènes où ?
On va parcourir un peu la coulée verte. On va pouvoir se balader entre les résidences, parce qu'on a déjà pas mal de choses ici. Et ensuite, on va pouvoir remonter vers les jardins familiaux ainsi que le parc de la Tauvray. Alors les oiseaux, c'est vrai que ce sont des animaux sauvages qui sont facilement observables en ville. Il suffit d'être un tout petit peu curieux, de s'arrêter un moment, de tendre une oreille, de regarder au détour d'un chemin, on va les voir beaucoup plus facilement. Alors en fait, lorsqu'on fait de l'ornithologie, il y a le côté forcément identification des espèces. Où là on va s'attacher particulièrement au physique, à la taille, à la couleur, aux motifs, aux proportions des pattes, du bec, etc. Et puis il y a un critère très important qui est le comportement. La façon dont votre oiseau va se déplacer, chercher sa nourriture, la façon qu'il a de se comporter avec les autres individus de son espèce ou d'une autre espèce, tout ça, ça donne des informations qui sont essentielles pour identifier l'oiseau, mais aussi pour comprendre un petit peu ses besoins, sa façon de vivre, d'évoluer. Il y a de tout parmi les oiseaux et parmi les autres espèces aussi animales et végétales qui peuplent le quartier. L'idée, c'est que chacun va avoir son rôle à jouer, comme les mésanges qui vont se nourrir plutôt en hauteur, dans les arbres, au bout des branches. La petite mésange bleue, avec son poids et ses grandes capacités d'acrobatie, elle va être capable d'aller chercher des petits insectes, des petites graines au bout des rameaux. La mésange charbonnière, elle est un petit peu plus lourde, donc elle va chercher sa nourriture un peu plus vers les troncs, voire au sol. Vous avez des oiseaux comme le merle noir, lui, qui va se nourrir non pas... pendant la belle saison, un petit peu moins de graines et d'insectes, mais il va apprécier fortement les vers de terre, les mollusques également, des escargots par exemple. Donc lui, on va le trouver souvent dans l'herbe rase, en train de chercher sa pitance. Vous allez avoir d'autres oiseaux comme le pivert qui vont se nourrir de fourmis. On va en avoir comme le pinson qui vont réussir à décortiquer des graines avec des écorces assez dur. Donc en fait, chacun, avec ses moyens, va être capable d'accéder à de la nourriture différente. On a la même chose pour la nidification. Chaque espèce va avoir ses propres besoins pour construire son nid. Vous allez avoir le troglodyte qui va chercher un endroit bien dissimulé, dans une haie ou derrière du lierre. Les mésanges qui vont chercher des trous dans les arbres. Ou encore les pies qui vont se mettre dans la ramure des arbres et qui vont faire une boule relativement visible. Donc en fait, si tout ce petit monde cohabite, c'est qu'ils ont des besoins qui sont différents et complémentaires. Alors si on écoute bien... Ah, on vient d'entendre un pivert derrière nous, une espèce de rire qui est très lointain. Et au-dessus de nous, là, on a un petit chant qui est un petit peu moins fort, plus aigu. Voilà, on a des petites notes aiguës. Tit, tit, tit. Et après, ça redescend. Tit, 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 tit. Tit, 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 tit. C'est pas facile, hein. Je suis pas une experte en imitation de chant, mais là, on l'entend bien. Alors, ça va dépendre. Des fois, on va avoir juste deux notes aiguës. Et des fois, là, elle vient nous en faire trois, par exemple. Vous l'entendez? Alors ça, c'est la mésange bleue. Alors c'est celle qui vient souvent en hiver sur nos balcons, nos terrasses, pour venir déguster les graines qu'on met à sa disposition. Et au début, fin de l'hiver, début printemps, les mâles vont se mettre à chanter, donc c'est le chant qu'on entend ici, de façon à défendre leur territoire et à attirer la femelle. Donc là, c'est les prémices de la reproduction.
Donc les mésanges, globalement, le mâle, il chante pour défendre un territoire et attirer une femelle. Essentiellement, on l'entend chanter en hiver, il commence un peu. Donc janvier, février, les jours de beau temps, il va commencer à chanter un petit peu et puis retourner manger avec les autres. Mais dès le mois de mars, il commence à chanter systématiquement et défendre son territoire. Par contre, les mâles et les femelles, ils ont d'autres sons qu'ils font. On appelle moins un chant qu'un cri, mais c'est un peu sonore. C'est un cri de recrutement. Et souvent, ils vont faire ça pour attirer d'autres mésanges ou d'autres oiseaux autour d'eux. Ça peut se faire, par exemple, s'il y a un prédateur qui approche le nid. Donc ça, il se met à plusieurs individus ou plusieurs espèces à crier, à voler vers le prédateur pour essayer de l'écarter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cri de recrutement. Et sinon, ils ont un cri d'alarme qui est très aigu, on entend à peine, qui est plus difficile à localiser aussi, parce que c'est quand c'est très aigu, on a du mal à orienter. Et donc ce cri-là, c'est un cri d'alarme qui est plutôt un cri pour dire « cache-toi, il y a un prédateur ». Donc ça, c'est des cris, les mâles et les femelles, ils le font, tous les deux. Après, quand ils sont en groupe, en train de chercher de la nourriture, souvent on entend des tout petits sons, des cris de contact ou des appels de contact. C'est quelque part juste pour savoir où sont les membres du groupe. Et au nid, le mâle et femelle, ils ont un petit son qui font... Pardon, il y a le téléphone qui sonne. Donc le couple, en fait, ils font un petit cri en arrivant au nid. Si l'autre parent est dans le nid en train de nourrir les petits, c'est pour prévenir « j'arrive » et que l'autre, il sort avant de faire ce échange. C'est un petit cri qui fait un peu comme ça. Donc c'est, on ne l'entend pas très loin, on l'entend vraiment très très proche du nichoir et c'est tout. Donc voilà, ça c'est un petit appel. On ne connaît pas très très bien la fonction, mais c'est clairement une fonction de coordination autour du nid entre les parents. Donc oui, il y a quelques autres petites formes de communication, mais ce n'est pas très élaboré. Comme nous, on communique, où on va mélanger des mots ou des phrases ou des sons. Il y a des oiseaux qui le font, ça, mais pas les mésanges.
Ça, c'est une mésange bleue. Ce tiers des têtes. Et voilà son chant. Très simple. C'est comme un petit éclat de rire. La mésange bleue est très vive et pleine d'énergie. Toujours en mouvement dans les arbres.
Mésange bleue. La mésange bleue est cette merveilleuse petite boule aux couleurs combinées de jeunes feuillages, du ciel et des premières primes vertes, à l'expression de malice spirituelle, joliment décrite par Jacques Delamain. Elle se nourrit principalement sur les hauteurs des arbres et niche dans les bois, les parcs ou les jardins. Malgré sa petite taille, celle que Marie-Louise Vidal de Fonseca appelle « l'elfe bleu », est un oiseau hardi, pugnace et bagarreur, doté d'une énergie implacable, voire féroce, lorsqu'il s'agit de défendre sa pitance face aux autres oiseaux de même taille. Émerveillée par la beauté de sa parade nuptiale, Marie-Louise Vidal de Fonseca la compare au troubadour et sa cour d'amour, pleine de poésie, ajoutant que la nature a préservé ce trésor pour ceux qui savent encore regarder. On associe l'intense vivacité de cet elfe bleu et la fantaisie de son vol à la joie. Si cette ferveur peut nourrir un souffle d'ordre mystique, il est essentiel, avec la mésange bleue, qu'elle trouve à s'inscrire dans le sensible, à s'incarner, par exemple, à travers le chant.
Ta 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 Donc moi, je suis Glenn de la LPO, donc la Ligue pour la protection des oiseaux. Et la LPO, donc ce qu'on cherche avant tout, c'est protéger les oiseaux. Donc pour protéger les oiseaux, on protège également les milieux. On fait beaucoup d'animations, de sensibilisation. On fait de la conservation d'espaces naturels, notamment la réserve de Combounet-sur-le-Sor au sud du Tarn. On gère également un centre de sauvegarde de la faune sauvage, donc on soigne les oiseaux également. Et on fait beaucoup d'études pour les collectivités, pour l'LPO France, au niveau national, on travaille avec différentes instances pour améliorer la connaissance. Voilà. Et donc moi je suis chargé de mission, donc je fais un peu de tout, mais quand même malgré tout beaucoup d'études.
Il y a un oiseau toi auquel tu t'intéresses plus particulièrement ?
Oh, je les aime tous, mais j'aime plus particulièrement les passereaux, moi. C'est plutôt ça qui m'intéresse, les petits oiseaux chanteurs. Parce qu'ils sont un petit peu plus difficiles à identifier, à suivre. J'aime beaucoup les chants d'oiseaux, et c'est un vrai plaisir de pouvoir comprendre leur présence, deviner leur présence juste à l'oreille au printemps. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à faire les inventaires. Hein. Les inventaires d'oiseaux, on les fait essentiellement au printemps, juste après le lever du soleil. Et on fait tout à l'oreille. C'est-à-dire qu'on reconnaît les espèces uniquement au chant. Et ça nous permet de dresser des listes assez précises et assez fiables des oiseaux présents.
Tu les enregistres, les chants d'oiseaux ? Tu les retires ?
Non, on les note à l'oreille. On appelle ça des points d'écoute. On a un carnet et on reste là sans bouger, on écoute et puis on note les oiseaux. Par exemple, on va essayer de faire un inventaire sur, je sais pas, un site de 2 km². On va définir des points sur lesquels on va rester statique. Et l'ensemble de ces points nous permettra de couvrir l'ensemble de la zone. Tu vois, vous voyez ?
Et tu connais beaucoup de chants d'oiseaux ?
Oui, tous les oiseaux du Tarn, beaucoup d'autres oiseaux. Après, je passerai certainement ma vie à apprendre les chants d'oiseaux, parce qu'il y en a dans le Tarn, il y a environ 300 espèces d'oiseaux qui sont présents ou qui ont été présents pendant un moment. En France, on a environ 600, et dans le monde, ça se compte en milliers. Donc, j'ai pas trop de la vie pour apprendre tout ça. Après, il y a pas mal d'oiseaux qui chantent pas ou très peu. Et c'est pas assez exceptionnel parce que ça fait peut-être 20 ans que j'écoute les chants d'oiseaux. Donc, au bout d'un moment, ça rentre, hein, croyez-moi.
Mais tu sais dire aussi, par exemple, ça, quand ils s'expriment pour quelque chose, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chant d'oiseau par oiseau, ils communiquent aussi, t'arrives un petit peu à... Voilà. Ce qui se dit.
Je ne parle pas encore de l'oiseau, mais les chants d'oiseaux ont essentiellement une vocation pour la reproduction ou pour la délimitation du territoire. Ça, c'est vraiment les deux fonctions principales. Après, il y a les cris des oiseaux qui, eux, sont peut-être plus lisibles. On va avoir des cris d'alerte, des cris d'inquiétude, des cris d'excitation. Et ça, c'est voilà, on peut les reconnaître pour les analyser pour les espèces très fréquentes. Après, il y a les oiseaux qu'on voit beaucoup moins, donc c'est plus difficile de comprendre et d'analyser leurs cris. Mais voilà. Dans la ville, peut-être l'oiseau qui chante le mieux, qui est le plus connu et qui est facile à apprendre, parce que pendant un moment de l'année, il est extrêmement présent, c'est le rossignol. Le rossignol Philomèle, qui est on peut le trouver dans les parcs et jardins, et c'est l'un des plus beaux chanteurs. Des oiseaux français. Il a la particularité notamment de chanter aussi la nuit.
Allons écouter le rossignol maintenant. Il est dans la haie qui entoure l'étang. C'est sûrement là qu'il a son nid. Lui aussi aime vivre près de l'eau, dans les broussailles où il est quasiment invisible. Il y a un autre rossignol au loin, et ils se répondent, ils s'écoutent. C'est un oiseau infatigable. En ce moment, il chante presque sans arrêt, nuit et jour. C'est un chant puissant, éclatant, nerveux, toujours différent et donc tout à fait imprévisible. Ça, c'est typique, ce...
Un oiseau, un mâle chanteur en début de période de reproduction, il va chanter pour défendre le territoire, attirer la femelle. Alors dans la nature, les oiseaux vont respecter un certain code. Par exemple, vous n'allez jamais avoir deux mâles qui vont se couper la parole. Il y en a un qui chante, il s'arrête, le deuxième, sur le territoire voisin, va entamer sa chanson, va s'arrêter. Et comme ça, il se lance la parole à tour de rôle. Alors en ce moment, lorsqu'on est dans des quartiers qui sont éclairés la nuit, on peut avoir croisé des oiseaux chanteurs en plein milieu de la nuit. On va se réveiller à 4h du matin, 5h du matin, 2h du matin. Eh bien, on a le rouge-gorge, le merle, la grive musicienne ou le troglodyte mignon qui sont en train de chanter et nous réveiller sous nos fenêtres. Alors ça, pourquoi ? On a certaines espèces qui, naturellement, vont chanter un petit peu en décalé par rapport aux autres. Par exemple, la grive musicienne, c'est assez fréquent que dès 5h du matin, dès la première lueur dans le ciel, elle va se mettre à chanter. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Et puis après, on a des oiseaux qui vont être décalés. Donc ils ont leur cycle biologique, leur horloge qui est décalée en lien avec différents événements et notamment en lien avec l'éclairage public. Lorsqu'on a des réverbères qui restent allumés toute la nuit dans nos résidences, dans nos quartiers, eh bien, ça va garder éveillé le rouge-gorge, le merle noir et autres oiseaux. Donc, on a des oiseaux qui vont se fatiguer déjà parce qu'on a des mâles qui vont chanter toute la nuit. Et puis, on peut avoir des incidences sur la reproduction. En termes de qualité des coquilles, des œufs, de taille des oisillons également. Donc pour ça, c'est vrai que lorsque l'on peut veiller à éteindre au bout d'une certaine heure l'éclairage public, ça peut aider la faune sauvage urbaine. Alors les étourneaux, c'est un cas un petit peu à part. Ils vont en effet imiter, donc ils vont être capables tout au long de leur vie d'insérer dans leur chant de base des motifs sonores entendus. Ça peut être un chant naturel, par exemple, on va avoir un étourneau qui va imiter le cri de la buse, qui est un rapace. Alors ça, c'est bien efficace pour faire fuir les autres oiseaux environnants et s'accaparer une nourriture, par exemple. Ils peuvent utiliser des sons d'oiseaux divers et variés. Voilà, ils vont prendre des petits motifs de chant et les inclure dans leur propre chant. Ils peuvent aussi imiter des bruits humains, des sons de porte pour certains oiseaux en laboratoire, des sons d'animaux domestiques. Dernièrement, on a un bénévole qui a entendu un étourneau qui faisait le mouton, par exemple. Voilà, c'est assez original. Alors, ce sont eux aussi qui font une espèce de sifflement, une espèce de piou, un peu bizarre. Quand vous entendez des cliquetis aussi, ça fait un petit peu comme des plein de petits claquements qui ne s'arrêtent pas. Ce sont souvent les étourneaux aussi. Enfin, ils ont un panel de sons très très intéressant. Donc ils vont se rassembler en grands groupes dans les villes où ils vont trouver protection et un petit peu plus de chaleur. Donc la nuit, lorsqu'il fait particulièrement froid, qu'il faut se protéger des prédateurs, on vient en grand groupe au centre des villes, là où on a l'abri. Et dès que le jour pointe son nez, on va aller plus en périphérie pour aller s'alimenter dans les champs alentours. Donc ça, c'est pour l'hiver. Pendant la belle saison, cette fois-ci, les oiseaux qui sont nicheurs chez nous, les étourneaux vont se séparer, donc ils ne vont plus être en grand groupe. Le mâle et femelle vont s'accaparer un petit territoire dans un trou. Donc ce sont des oiseaux qui vont nicher souvent dans des vieilles loges de pique ou tout autre trou qui pourrait faire l'affaire. Donc c'est pour ça qu'on va en trouver notamment sur les bâtiments dans certains quartiers rennais.
Étourneau sans sonnet.
Mon fameux étourneau qui fait pas mal parler de lui aussi, qui en reste pas moins un oiseau fascinant de par le comportement et puis son aspect aussi. Parce que lorsqu'on voit un étourneau au soleil, c'est quand même particulièrement joli.
Il est peu d'oiseaux mieux armés dans la lutte pour la vie que les étourneaux, note Paul Géroudet. Cet oiseau a en effet une capacité extraordinaire d'adaptation à l'activité humaine, apprenant très ingénieusement à en tirer parti. Oiseau très commun dans les villes et les campagnes, il se différencie du merle, avec lequel il est souvent confondu, grâce à son plumage brun irisé, constellé d'étoiles, auquel le nom anglais de l'oiseau, starling, rend hommage. Il se distingue également du merle par l'allure de dandy que lui donne sa démarche assurée et sa queue en forme de redingote. Cet oiseau à la vitalité prodigieuse est un joyeux de rire, un pitre de foire jouant tous les instruments, comme l'écrit Jacques Delamain, capable d'imiter les plus grands airs d'opéra autant que le langage humain. Un dortoir d'étourneaux offre un déferlement d'allégresse. Il est immédiatement repérable tant le chahut qu'il provoque est tonitruant. Il célèbre à l'unisson le crépuscule en d'exubérantes trilles, cliquetis et autres vocalises. Sa vivacité, sa rapidité, sa nature volubile sont la marque de Mercure, tout comme son tempérament extrêmement grégaire. Car une autre des particularités de cet oiseau consiste en ses déplacements collectifs auxquels il se livre tous les automnes. Une centaine d'oiseaux, à l'harmonie étonnante, esquisse un mystérieux ballet. La bande d'oiseaux ne forme plus qu'une seule et même nuée se dilatant, se resserrant, s'allongeant, se rétractant. L'individu est pris dans la discipline collective, se fond entièrement dans le mouvement général d'expansion et de repli. Une telle qualité de cohésion et de coordination témoigne de la signature de Jupiter, l'astre le plus volumineux qui entoure le Soleil, confère à l'étourneau sa robustesse et son aptitude à s'accommoder de tout. Il n'a pas de milieu vital particulier, choisit n'importe quelle cavité pour nicher, pourvu qu'elle soit équipée d'une entrée assez grande. La présence de Jupiter amplifie les valeurs de mobilité et d'adaptation de Mercure, comme elle exalte sa personnalité de galuron, astucieux et brillant. Le tirage de cette lame assure une protection au consultant. Elle indique qu'il saura se tirer d'affaire, se libérer des situations les plus inextricables, grâce à son ingéniosité et à la mise en place de stratégies personnelles originales. L'étourneau assure une certaine résistance face à l'adversité. Cet oiseau mobilise notre capacité d'adaptation et de résilience, notre faculté à rebondir, nous invitant à demeurer optimistes, aussi sombre puisse nous paraître l'horizon. Aucun environnement n'est hostile pour qui sait, comme l'étourneau, ruser avec l'ennemi et trouver son propre moyen de salut.
Alors c'est vrai que souvent, lorsqu'on cherche à reconnaître justement les différents oiseaux qui viennent à proximité du balcon, du jardin, dans le quartier, c'est intéressant de passer du temps à les observer parce qu'on se rend compte qu'ils ont chacun leur petit caractère, leurs petites humeurs. Alors ceux qui ont un rouge-gorge dans leur jardin, ils ont dû se rendre compte que lui, c'était un grand solitaire. Il a tendance à être seul sur son territoire, le mâle avec sa femelle et point d'autres rouges-gorges dans les parages. Alors pour dire qu'il est quand même très très territorial, c'est qu'en début de période de reproduction, lorsque le mâle va chanter pour attirer la femelle qui ressemble comme deux gouttes d'eau au mâle, hein, rien qui ressemble plus à un rouge-gorge qu'à un autre rouge-gorge, elle va adopter un comportement qui ressemble à un comportement de jeune. C'est-à-dire que vous avez un oiseau qui va un petit peu s'affaisser sur ses pattes, qui va se mettre à frétiller, bouger frénétiquement les ailes, comme un juvénile en fait. Et ça, c'est un comportement qui permet de montrer au mâle... Attention, je suis une femelle, ne viens pas tout de suite me voler dans les plumes, voilà, je suis là pour faire une famille avec toi.
Voilà un rouge-gorge. Il est perché assez haut dans un chêne. C'est un chant doux, un peu acidulé, très aigu, musical et jamais pareil. À entendre son chant si délicat, on pourrait croire que le rouge-gorge est d'un tempérament tranquille. Eh bien, pas du tout. C'est un oiseau solitaire qui ne supporte pas ses semblables. Rien que de voir la couleur rouge le met hors de lui. Par exemple, s'il voit son image dans une vitre, il se jette dessus et peut même s'assommer contre son reflet. Il a mauvais caractère, mais il est très charmant.
Rouge-gorge familier. Le rouge-gorge est cette petite boule de feu qui accompagne souvent le jardinier dans son labeur. Il est un oiseau solitaire, plutôt discret, prudent sans être farouche, mais toujours curieux, et il se plaît à suivre en sautillant le travailleur de la terre à la recherche de vers que la bêche soulève. Le poète Philippe Jacotet le décrit ainsi, en oiseau piéton, portant un plumage couleur de la terre sur laquelle il aime tant à marcher, cette sorte de foulard couleur de feu apprivoisé, couleur de ciel au couchant. Il n'est sans doute pas fortuite que terre et feu se soient fondus dans la livrée du rouge-gorge, car celui-ci est viscéralement attaché à son territoire, au point de s'en faire l'unique propriétaire. Doublement signé par la planète Mars, le rouge-gorge se montre terriblement querelleur avec ses congénères. Il est l'intolérance, l'insociabilité même, possédé d'une véritable rage si un intrus a le malheur de pénétrer son territoire. Son tempérament belliqueux contraste d'ailleurs avec la douceur et la pureté de son chant.
Petit oiseau dans la campagne, petit oiseau qui n'est pas bien. Petit oiseau sur la montagne s'en va, ne sait quand il reviendra. Petit oiseau dans la nature, ivre d'amour et d'air pur. Chante que mort pourvu que ça dure, ça va, petit oiseau reviendra. Mais le diable qui bat sa femme, après 3 litres de vin, lance sur lui de longues flammes sans fin. Oiseau pleure enfin. La 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 la. S'il avait écouté sa mère, bien sagement il aurait un bon foyer et un bon lit dans son nid. Ah, s'il n'était pas parti. Vous avez bien compris, mesdames, pourquoi ce regard moqueur. Petit oiseau, c'est mon cœur.
Bravo,
qui pour vous toutes se meurt.
Plus profond désir depuis toujours a été d'être musicien et plus exactement de composer de la musique. Tout naturellement, parce que je fais partie de la génération des gens qui sont nés avec le disque, j'ai tout de suite pensé que mon instrument de musique serait la bande magnétique, serait l'enregistrement, serait le microphone. Et quand je dis aux gens que je suis musicien ou compositeur, ils me disent « Ah, mais c'est merveilleux, et vous jouez de quoi ?» Eh bien, je joue du studio, en fait. Et ça, ça a été mon activité première. Alors, à partir de là, avec des micros, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait une musique qui se compose avec des sons enregistrés. Cette musique qu'on a appelée musique concrète ou musique électroacoustique. Et en fait, la musique électroacoustique ou la musique concrète, ce sont des musiques de bricoleurs. On prend des sons, des bruits enregistrés, des sons enregistrés, puis qu'est-ce qu'on fait avec ces sons? On les assemble, on les superpose, on les met les uns derrière les autres, et puis ils sont comme des objets, alors on peut les grossir, on peut les ralentir, on peut les passer à l'envers, on peut faire toutes sortes de choses. Et les sons, ils sont là, fixés sur un support, que ce soit une bande magnétique, une cassette DAT, une audiotape ou un disque dur, etc. C'est en fait fixé sur un support, c'est un peu comme l'image photographique. Et à partir de là, on peut bricoler. On peut faire du Photoshop avec des sons, finalement. Et donc, ça passe par l'écoute. Je suis comme un photographe qui examine ses photographies et qui trouve qu'il y a des formes, qu'il y a des structures, qu'il y a des assemblages de couleurs qui sont déjà là et sur lesquels on peut travailler, et qu'on peut valoriser, et qu'on peut agencer, etc., etc. Et quand on fait de la musique électroacoustique, on fait ça avec des sons enregistrés, mais quels sons? Et comment peut-on faire de la musique avec des bruits? Et finalement, les bruits et les sons qui me sont apparus les plus intéressants pour faire de la musique étaient ceux que me proposait la nature, et dans la nature, principalement les chants d'oiseaux. Et donc, progressivement, j'ai sombré naturellement dans l'ornithologie, dans l'écoute des chants d'oiseaux, leur analyse, etc., jusqu'à composer, pas exclusivement, mais quand même très souvent, avec le matériau que me fournissent les oiseaux eux-mêmes. J'ai plutôt tendance à aller chercher le son sauvage et naturel, c'est-à-dire en fait celui dans lequel on entend peu l'activité des hommes. Je dis peu parce que même un paysage sonore dans lequel on n'entendrait aucune activité humaine est très souvent forgé par l'homme parce qu'il a forgé le paysage dans lequel se sont installés les animaux, les oiseaux, etc. Et c'est donc en fait une sélection des espèces qu'il a fait. Mais indépendamment de ça, ce qui m'intéresse, c'est que ces espèces, elles chantent ce qu'elles veulent. Elles ne chantent pas ce qu'on leur demande de chanter. Donc elles ont un langage, elles nous disent des choses, elles disent des choses. Elles se le disent entre elles ou elles le disent à personne. Elles le disent parce que c'est une louange en fait. Bon. Il y a effectivement, si on prend la nature et si on prend les émissions sonores du monde animal, hein, parce qu'à ce moment-là, on peut considérer les oiseaux, mais il faudra ajouter les batraciens, les insectes, etc., tout ce qui fait du son, tout ça, ça occupe ce qu'on appelle le spectre sonore, c'est-à-dire ça s'étage du grave vers l'aigu. Et ce qu'on remarque, c'est que chacune des espèces a une espèce de niche particulière de fréquence qui est la sienne et qui lui permet d'être lisible à cet endroit-là. Si tous les oiseaux chantaient à la même hauteur, à la même vitesse, avec le même timbre, évidemment, on les confondrait. Alors que ce qui compte, c'est la signature sonore. C'est l'identité. Les chants et les sons animaux sont souvent des affirmations d'identité. Identité de l'individu, identité d'un groupe, identité d'une espèce, etc. Et pour que cette identité soit lisible, il faut qu'elle trouve sa place dans cette espèce de grande symphonie de tous les sons de la nature. Et du coup, je dis le spectre du grave vers l'aigu, mais il y a ceux qui se distinguent pas forcément par le fait qu'ils sont graves, médium, aigu, etc., mais parce qu'ils font des rythmes et qu'ils ont des rythmes qui leur sont bien particuliers. Et ceux qui sont au contraire beaucoup plus occasionnels, qui font des sons alors qu'ils sont en mouvement et qui donc balayent l'espace. Et tout ça est très intéressant à observer parce que c'est tout à fait la symphonie de la nature dans le sens, dans l'étymologie du mot symphonie, c'est-à-dire les choses qui sonnent ensemble. Et tout ça, ça me fournit de la matière à écouter, à contempler. Et d'une certaine manière aussi pour moi, le compositeur de musique, c'est quelqu'un qui écoute le monde et qui essaye de le restituer. C'est-à-dire en fait d'amener ça à l'écoute des auditeurs, à l'écoute de ceux qui vont écouter de la musique. Utiliser la musique comme moyen de dire aux gens, mais écoutez comme c'est beau, écoutez la vie comme c'est beau. Voilà. C'est quand même d'essayer de mettre sous l'oreille ou sous le regard des gens des choses qui sont extraordinaires pour peu qu'on les ait sorties de leur contexte et qu'on dise aux gens, mais regardez comme c'est beau. C'est la même chose la photographie d'une mésange prise en gros plan. On dit, mais c'est incroyable, c'est un oiseau exotique qui vient tout simplement de l'arbre d'à côté. Rimbaud disait que le poète était un voyant, c'est-à-dire en fait quelque chose qui perçoit les choses et qui peut-être, par l'exercice de son art, a le talent de le montrer davantage aux autres, qui ne sont pas forcément axés sur cette chose-là, a priori.
Est-ce qu'il y a un paysage sonore, donc un agrégat comme ça de nature, qui vous a particulièrement marqué ?
Ben, peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'était le delta du Danube, parce que c'était l'Europe, donc finalement pas si loin de chez nous, à la limite d'ailleurs entre la Roumanie et l'Ukraine, et dans des endroits où actuellement il y a pas mal d'activités de guerre aussi. Mais ce qui m'avait beaucoup intéressé là-bas, c'est que c'était l'un des derniers paysages véritablement sauvages de l'Europe. Il n'existe plus qu'une seule forêt primaire, c'est-à-dire qui n'a pas été touchée et modifiée par la présence de l'homme. Elle existe en Pologne, et elle n'est pas si grande que ça. Et le delta du Danube était une des dernières zones véritablement sauvages, ne portant pas l'empreinte particulièrement des activités humaines. Et il y a dans le delta du Danube, et j'espère que c'est encore comme ça, parce que c'est des prises de son qui ont été faites il y a entre 20 et 30 ans, mais une densité justement et une variété d'espèces complètement incroyables, de jour comme de nuit.
Thank you.
Est-ce que vous avez noté au cours de l'évolution de vos enregistrements une perte de la biodiversité que nous pouvons entendre dans la nature et dans les espaces naturels ?
Alors, c'est difficile d'entendre la perte puisqu'elle n'est pas là. Cela dit, ça me fait penser à Mozart qui disait souvent « j'en entends qui ne chante pas ». C'est-à-dire, en fait, j'entends quand même l'absence de certains musiciens dans l'orchestre qui ne se manifestent pas. Et au-delà de ça, c'est vrai que je pense qu'il y a une perte de la biodiversité, mais elle est difficile à mesurer parce qu'il y a aussi une adaptation de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'énumérer des espèces éteintes, mais peut-être des espèces qui ont été s'installer ailleurs, qui ne sont plus là, et d'autres biodiversités qui s'installent. Donc tout ça, c'est assez compliqué à dire. En revanche, ce qu'on mesure d'une manière peut-être plus efficace et plus réelle, c'est la baisse des effectifs. Ça, c'est quelque chose qui est très important.
En ce moment, les oiseaux, ils sont confrontés à une problématique qui est du changement. Il faut s'adapter. On est dans un environnement qui change tous les jours, alors, de par des activités humaines qui sont de plus en plus modernes, nombreuses, qui impactent plus ou moins sur l'espace. Et en fait, il s'agit de s'adapter. Donc on va avoir ceux qui s'adaptent facilement. Les mésanges par exemple, mésanges charbonnières, mésanges bleues, qui vont être capables de trouver ce dont elles ont besoin dans un environnement qui change. Et puis on en a d'autres qui se retrouvent face à de gros obstacles. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Et c'est là qu'il y a des problèmes qui se posent, c'est qu'ils ne vont pas être capables, dans un environnement changeant, de continuer à vivre. Donc là, si on ne fait rien, eh bien, c'est des oiseaux qu'on va voir de moins en moins souvent et qui peuvent être amenés à disparaître dans des régions données. Certains oiseaux, s'ils ne sont pas présents, c'est qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour eux. Il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi se reproduire, donc le milieu va mal. Donc c'est un indice important. Alors, on parle des oiseaux, mais il y a d'autres groupes aussi, les amphibiens par exemple, certains groupes d'insectes, qui sont de très bons indicateurs pour donner une idée de l'état de santé du milieu.
Là, je viens de finir une étude sur les... Alors là, par contre, c'est très urbain, c'est la faune du bâti, notamment les hirondelles et les martinets sur l'Albigeois. On a fait un travail, alors pas sur tout, mais c'est un travail qui va se faire sur 3 ans, donc on a fait que la première année là. On fait un inventaire exhaustif de tous les nids d'hirondelles. Dans une moindre mesure de martinets qui sont plus compliqués à trouver, et après ça nous permet déjà de faire des préconisations, donc on essaie de trouver des solutions pour la collectivité, et après ce travail-là nous permettra de comprendre l'évolution et de le mesurer en fait, voir à quel niveau les populations évoluent d'hirondelles. En l'occurrence, est-ce qu'elle se la figure de manière dramatique, parce qu'entre le ressenti qu'on peut avoir et la réalité, il y a souvent un décalage. Et rien ne vaut du coup des informations très factuelles. Compter d'année en année les nids occupés et voir comment ça évolue, c'est le meilleur moyen de comprendre la dynamique de l'espèce. Ces dynamiques-là, c'est quand même sur du temps moyen ou du temps long. Et d'une année sur l'autre, on a le sentiment qu'il y a moins d'oiseaux, mais c'est difficilement mesurable. Et c'est grâce justement à ces protocoles-là, donc notamment le stock, suivi temporel des oiseaux communs, ça nous permet d'avoir des chiffres sûrs. Ça, c'est facilement mesurable en fait, en se baladant, que les oiseaux des milieux prairiaux, donc des milieux ouverts, et les milieux des oiseaux des champs, donc agricoles, eux se cassent la figure de manière assez sérieuse. Alors que les oiseaux des parcs et jardins, les oiseaux qui s'adaptent, comme les rouges-gorges, les mésanges, les merles, eux ont tendance à se porter plutôt bien, à stagner, voire à augmenter. Après, il y a d'autres oiseaux qui, au contraire, dont les populations augmentent fortement, comme les pigeons ramiers, par exemple, qui connaissent une forte augmentation. Donc c'est assez inégal, si vous voulez. On peut pas dire... globalement, on sait qu'il y a environ moins de 30% en 30 ans des oiseaux en France qui ont disparu. Par contre, c'est assez inégal en fonction des départements et aussi selon les cortèges. Donc les oiseaux des milieux agricoles et ouverts sont beaucoup plus impactés que les oiseaux des milieux forestiers, par exemple. Et les oiseaux généralistes, hein, donc des parcs et jardins plutôt, eux, ça va. C'est plus une question d'évolution des habitats. C'est la destruction des habitats. Enfin, sur les espèces des milieux agricoles et ouverts, c'est essentiellement la disparition des habitats. Il y a de moins en moins de haies. Il y a de moins en moins d'espaces ouverts, notamment de prairies de pâturage, des prairies sèches, des prairies naturelles, on va dire. Parce que ces espaces-là qui étaient auparavant entretenus par le pâturage tendent à se refermer, du coup il y en a de moins en moins. Et également l'usage des pesticides hein, qui a un impact assez fort, même très fort sur ces oiseaux-là. Voilà. Après il y a la fragmentation des habitats, enfin, il y a pas mal de choses. Malheureusement ces oiseaux-là sont victimes d'un faisceau de problèmes qui rend leur survie de plus en plus difficile.
Il y a des jours de l'année où, mais c'est mondial, ils font des comptages d'oiseaux. Et il y a des bénévoles qui vont faire des points de comptage et chaque année vous sortez, vous comptez le nombre d'oiseaux et vous voyez que ça diminue. Et avant on voyait tel type d'espèces, etc. Et là on ne les voit plus. Les oiseaux sont en train les populations d'oiseaux sont en train de chuter dramatiquement. Il y a une étude qui a été menée par les chercheurs du musée de Paris en collaboration avec d'autres chercheurs européens qui ont montré que les populations d'oiseaux sont en train de chuter. Surtout, c'est les oiseaux qui sont inféodés au milieu agricole. L'épandage de pesticides, par exemple, qui font qu'il n'y a simplement plus d'insectes. Par exemple, les hirondelles qui dépendent des insectes volants vont être très rapidement affectées. Donc c'est ça qui fait que certaines espèces pourront s'adapter. Et d'autres auront vraiment beaucoup de peine, en fait. Voilà, les pigréches écorcheurs. Enfin, il y a plein d'espèces qui sont très, spécialisées sur certains types de proies, qui cherchent des gros insectes ou vous voyez. Et donc, ces insectes, s'ils disparaissent, l'oiseau, simplement, il ne trouve plus de quoi se nourrir, en fait. Ouais. En tant qu'écologue, on est quand même choqué par cette disparition rapide. Et par cette agriculture, c'est pas seulement l'agriculture, mais sous ce changement, modification des habitats, c'est qui fait que l'environnement est en train de perdre de sa qualité pour maintenir en fait le vivant. En fait, voilà. En tant qu'écologiste, on se rend compte qu'il y a des connaissances, mais ça suffit pas en fait. Il y a toute une pression économique et politique qui fait que les choses ne changent pas en fait. Mais après, voilà, il y a des espèces comme les mésanges qui semblent tenir parce qu'elles s'adaptent, elles ont un régime alimentaire varié, elles peuvent s'installer en ville. Je pense que ce qui est un peu contradictoire, c'est que les villes vont devenir presque un peu comme des refuges, vous voyez, par rapport à l'agriculture intensive. Vous voyez, là, il y a la mésange qui vient voir son nichoir, je pense. Vous voyez, là.
On la dérange parce qu'on est en dessous.
Ouais, mais ils ont l'habitude. Ouais, elle va peut-être même venir là. Alors en fait, vous voyez, les mésanges, elles gardent leur nichoir parce que ça, c'est prime property, comme on dit en anglais. C'est l'habitation de luxe. Elle peut peut-être s'éloigner, elle va peut-être voir si elle va peut-être rentrer dans son nichoir, je ne sais pas.
Voilà qui ?
Les oiseaux !
Enfin ! Les oiseaux ! Nous sommes sauvés !
Les oiseaux !
Parfaitement, les amis ! Nous voilà ! Les oiseaux !
Gymnastique sonore, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu Alerte Météo Terre avec le premier chapitre d'une série consacrée aux oiseaux, Cantus. Rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 2, Silentius. Et pour vous muscler la cochlée à tout moment, retrouvez les archives des émissions sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.